I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
What time is it? What time is it?
Got gun, Hulk left slot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Fever left, 75, Katie. Omaha, quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 678 du podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va passer en revue tous les matchs de cette semaine 12. Et pour m'accompagner, on ne change pas une équipe qui gagne, je serai avec Victor Roulier. Enfin, je ne sais pas si on a gagné lundi, en tout cas, on n'a pas changé l'équipe. Victor, comment ça va ?
Mais ça va très bien, j'espère que toi aussi, oui, puisque des gens n'ont pas forcément entendu, mais tu as failli mourir lundi, hein.
Lundi, j'ai failli mourir. Ouais. On a essayé un petit peu de camoufler ça, mais c'est vrai que j'ai failli mourir en parlant des Browns. Pourtant, ça va bien, les Browns. Mais bon, on va en parler. Mais ça va mieux. J'espère que toi, tu as pu dormir un petit peu malgré la nuit courte entre lundi et mardi.
J'ai enfin eu une nuit complète. Ça y est, je suis revigoré.
En forme, donc, pour parler de tout ce qui arrive dans ce podcast avec cette semaine un peu particulière, puisque Thanksgiving oblige, on va avoir 4 matchs entre jeudi et vendredi, on va les évoquer ensemble forcément. On va aussi avoir le débat de la semaine. On va parler des Broncos. Et puis, on va avoir l'affiche de la semaine. On va parler de l'AFC Sud. C'est parti.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et comme d'habitude, on commence par le débat de la semaine. On va parler des Broncos, je l'ai dit. On en avait parlé un petit peu en début de saison. Victor, je crois que c'était avec Raoul. Et vous aviez titré mission sauvetage pour les Broncos, parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, rien n'allait pour Denver. Et là, on avait envie de faire de nouveau un podcast sur Denver et on avait presque envie de le titrer mission playoff, point d'interrogation, parce que ça va beaucoup mieux pour Denver. Ils ont commencé la saison à 1 victoire, 5 défaites. Ça faisait tâche forcément avec l'arrivée de Sean Payton. Sauf que depuis 4 victoires consécutives, ils ont un bilan à l'équilibre, 5-5. Ils ont le momentum aussi. J'ai envie de te demander déjà pour commencer, qu'est-ce qui a changé entre le début de saison moyen, voire mauvais, et cette partie de la saison qui est plutôt bonne?
Écoute, je pense qu'en début de saison, c'est toujours pareil. Dans ces équipes qui changent de coach et qui changent de coordinateur, qui vont changer éventuellement de système, avec quand même un renouvellement d'effectifs, etc. Mine de rien, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer un mauvais début de saison. Après, c'est vrai que ce mauvais début de saison-là, il était historique. Parce que bon, clairement, je veux dire, prendre 70 points, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis les années 60. Bah, forcément, on n'était pas très optimiste, d'autant plus qu'il commençait à dire que tout le monde était sur la liste des transferts, que tout le monde pouvait, sauf Patrick Surtain apparemment, mais que tout le monde pouvait être vendu, etc. Donc, c'est vrai qu'on commençait à se dire, attention, cette équipe, elle part dans le mauvais sens et tout. Et là, tu as dit 4 victoires d'affilée, mais j'ai envie de dire en plus 4 victoires d'affilée contre les Chiefs, contre les Bills, contre les Vikings qui sont en grande forme. Ils n'ont pas battu
n'importe qui,
ils n'ont pas enchaîné Cardinals, Giants, machin, tu vois. Ils ont vraiment eu des grosses oppositions. Je pense que là, la greffe a pris. Sean Payton a enfin réussi à fédérer ce groupe.
Oui, parce que c'est vrai que souvent, il y a des périodes dans le calendrier avec des matchs un peu plus faciles, et puis il y a des équipes qui enchaînent quelques victoires. Et puis, quand on regarde le calendrier, on se dit, oui, c'est vrai que, mais on a des points d'interrogation. Là, c'est vrai, tu le dis, les Chiefs, ils battent les Bills, qui ne sont pas les Bills peut-être de l'an dernier, mais c'est compliqué de battre les Bills. Ils battent les Vikings, qui étaient l'une des équipes les plus en forme de la Ligue, tu l'as dit. C'est vrai que ça va très bien. Et en plus, tu le disais, tout le monde était sur la liste des transferts. Finalement, on n'a pas changé grand-chose. On a fait confiance aux hommes qui étaient en place. On a fait confiance à Sean Payton pour faire progresser tout ça. Et c'est vrai que ça va bien. On a forcément envie d'abord de se tourner vers Russell Wilson parce que c'est la star de cette équipe. C'est un peu le catalyseur. Ça avait été le catalyseur l'an passé quand la saison avait été compliquée. Ça l'est aussi cette année. Il est plutôt bon cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a notamment peu de pertes de balles pour lui. Il est à 2065 yards de gagné, à 69% de réussite, 19 touchdowns. Pour 4 interceptions, on a un Russell Wilson qui n'est pas incroyable, mais qui est déjà bien meilleur que l'an passé.
Oh oui, il est même globalement très très bon. Alors paradoxalement, le dernier match était peut-être un des plus poussifs de ces dernières semaines sur le plan offensif, parce qu'il y a aussi la défense qui s'est réveillée. Mais oui, je trouve que globalement, il est bon. Sa ligne offensive va de mieux en mieux, et forcément, ça aide à prendre confiance. Sutton est quand même à un niveau, à un moment, il faudra en parler aussi. Et je trouve que peu à peu, le cahier de jeu commence à s'ouvrir. C'est encore assez frileux, mais peut-être volontairement, tu sais. Peut-être dans le but, on va graduellement rendre nos schémas offensifs plus compliqués. Mais là, on attend d'abord que tout le monde soit, entre guillemets, à l'aise avec le schéma, etc. Donc, il y a encore du temps, mais je trouve que globalement, cette attaque, à l'image de Russell Wilson, elle commence vraiment à trouver des repères et à être de plus en plus diversifiée et intéressante.
Ouais, cette attaque, elle inscrit 21,7 points par match depuis le début de la saison, et notamment portée par un homme, tu l'as dit, Courtland Sutton, 45 réceptions, 499 yards, 8 touchdowns. C'est vraiment la cible préférentielle de Russell Wilson. Et c'est vrai que ça va bien, le cahier de jeu s'ouvre un petit peu. Peut-être la remarque que j'aurais à faire, et notamment sur le match précédent, parce qu'on voit, on le sait, le jeu au sol est important aussi dans cette équipe. Il a été, mais il est un peu inconstant, j'ai envie de dire. Sur les Vikings, il y a 15 courses pour 35 passes. Est-ce que pour que les Broncos soient meilleurs et plus constants, il ne faudrait pas un jeu plus équilibré dans cette attaque ?
Je dirais que ça dépend des schémas de jeu. Je pense que là, dans cet affrontement-là en particulier, ça pouvait avoir du sens d'insister sur le jeu de passe. Mais c'est vrai que si on parle plus généralement, oui, il faut trouver cet équilibre. Après, tu n'as pas un énorme running back, sans manquer de respect à Samaje Perine, Javonte Williams et Jaleel McLaughlin. Bon, c'est quand même pas des foudres de guerre, même si Javonte Williams, avant blessure, était très bon. Hein, mais je trouve quand même très emprunté. Donc, j'ai aussi l'impression qu'il fait par rapport au casting qu'il a, parce que mine de rien, le 5-5 ne doit pas nous faire oublier que cet effectif n'est pas forcément top 10 de la Ligue, hein, loin d'un.
Oui, il n'y a pas un effectif top 10 en effet. Javonte Williams, il est à 473 yards, et surtout en effet au sol, que ce soit Williams, tu l'as dit, Perine ou McLaughlin, il n'y a qu'un touchdown au sol depuis le début de la saison. Peut-être un point d'amélioration, mais en effet, Sean Payton qui s'adapte aussi pas mal à l'adversaire. On a parlé beaucoup de l'attaque. On a envie de parler de cette défense-là, parce que c'est vrai que ce qui nous marque quand on parle de cette défense, c'est ces 70 points encaissés par les Broncos face aux Dolphins. J'avais quand même envie de parler de cette défense en disant que lors des 5 premiers matchs de la saison, ils ont encaissé 36,2 points en moyenne. Bien aidé par ce 70 points, il est vrai. Sauf que depuis, sur les 5 derniers matchs, c'est 17,4 points uniquement encaissés. Là, il y a un vrai axe d'amélioration qui a été poussé par Sean Payton, et on voit les effets depuis quelques matchs.
Oui. Bah écoute, pour le coup, au début de la saison, Sean Payton, on va dire, a eu son lot de critiques ou ce qu'on veut, mais la personne qui a quand même pris le plus dans la tête, ça a été Vance Joseph. Et Vance Joseph, bah là encore, il est en train de construire un groupe. On savait qu'il avait des individualités. Je veux dire, Patrick Surtain, c'est un des meilleurs à son poste. Simon, c'est un des meilleurs safety. G-Well aussi est un excellent linebacker. Voilà, on découvre pas, mais je trouve que là où c'est le plus significatif, c'est la progression de la ligne défensive, en fait. On voit vraiment des jeunes joueurs comme Baron Browning qui est en train vraiment d'exploser. On a un Zach Allen, la greffe a mis un peu de temps à prendre, là ça prend. Je trouve que vraiment, ce qui fait le plus la différence entre l'année dernière et cette année, c'est vraiment cette notion de ligne défensive capable d'arrêter la course, ce qui était quand même... Parce que 70 points, ils s'en prennent beaucoup dans la course. Et là, on voit cette ligne maintenant, elle est capable d'arrêter la course. Et quand tes équipes sont obligées de passer, bah là, tu te retrouves face à des Surtain, des Simmons qui peuvent te punir. Donc, il y a une progression globale, c'est très beau.
Il y a un élément aussi important de cette défense, parce que quand on regarde les statistiques, ça reste la pire défense en termes de yards encaissés, 400 par match. Mais il y a les pertes de balles, on en a parlé lundi. C'est une défense qui réussit à provoquer des turnovers. Ils sont à 19 turnovers provoqués depuis le début de la saison. Ils sont en deuxième à égalité avec les Bills. Seuls les Jaguars font mieux. 10 interceptions, 9 fumbles. Et ça, c'est important, en effet, parce que même quand on prend des yards, si on arrive à provoquer des turnovers, ça peut mettre un petit peu de points enlevés sur l'attaque. Donc, c'est important et c'est un aspect que je voulais évoquer. On va parler du calendrier pour terminer, Victor, parce que les Broncos, ils vont recevoir les Browns, aller chez les Texans lors des deux prochaines journées. Ensuite, ce sera un déplacement aux Chargers, un déplacement à Détroit pour les Lions, réception des Patriots, des Chargers et enfin, dernier match à Las Vegas face aux Raiders. J'ai envie de te poser une question toute simple. Playoff ou pas pour Denver ?
Écoute, c'est vrai que l'AFC est dans un état lamentable, ce qu'on n'avait pas forcément attendu avant le début de la saison. Bon, évidemment, ils ne gagneront pas la division, ça je pense qu'on est tous d'accord. La question, c'est que tu vas concourir avec Bills, Dolphins, Browns, Steelers, Texans là-dessus. Et du coup, quand tu commences à dire ça, tu te rends compte que finalement, ils ont presque leur destin en main. Parce que les deux prochains matchs, c'est Browns et Texans. Donc, potentiellement, deux adversaires directs à la course à la wild card. Et s'ils commencent à gagner ces matchs, on va commencer à y croire. Et moi, je vais répondre directement à ta question. Et je vais dire playoff.
Playoff, très bien. Ça me plaît. Et en effet, je pense que ça va se décider dans les deux prochaines semaines avec cette réception des Browns, déplacement des Texans, parce qu'on l'a dit, le calendrier est un petit peu plus favorable en fin de saison, on va dire. Et s'ils ont pris l'avantage sur ça, ils pourront maîtriser leur avance. Je vais dire playoff moi aussi. Voilà, deux playoffs pour les Broncos. On va voir ce que ça donne. Quand on les avait enterrés, ils sont revenus. Quand on les voit revenir, on espère qu'ils ne vont pas s'enterrer. Voilà, mais c'est la loi. C'est la loi du podcast. En tout cas, nous, on va passer à l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, on se dirige dans l'AFC et l'AFC Sud. On n'a pas forcément l'habitude, mais il va falloir peut-être commencer à s'y habituer. Victor, les Jaguars qui accueillent les Texans. C'est le match de dimanche à 19h. C'est une rencontre peut-être qui peut être décisive pour cette division parce que les Jaguars, ils mènent la division pour l'instant avec 7 victoires, 3 défaites. Les Texans sont juste derrière avec 6 victoires, 4 défaites. Ils se sont déjà joués, hein, les deux équipes, en semaine 3. Jacksonville avait perdu 17-37. Mais déjà, ce match-là, est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment décisif pour la suite de la saison et pour le vainqueur de la division potentiellement ?
Oui, totalement. Bah, tu l'as dit, il y a eu un premier affrontement qui a tourné à la correction. Et je veux dire, ils sont tellement proches que s'ils arrivent au même bilan à la fin de la saison, bah, ce qu'on appelle le tiebreaker, donc ce qui permet de différencier deux équipes à égalité, là par exemple les Texans ils ont déjà, tu l'as dit, pris une option, on va dire. Ils peuvent pas avoir un tiebreaker négatif, au pire ça sera à égalité, donc clairement oui, c'est énorme parce qu'en fait on se rend bien compte que les Colts sont pas de niveau, les Titans on n'enterre jamais les Titans au fil des années parce qu'à chaque fois ils nous font mentir, mais là quand même ils ont l'air un peu en dehors de la course. Il y a deux favoris qui ont quasiment le même bilan, qui ont des fortunes, on va dire, à peu près similaires, parce que bon, même s'il y a une défaite un peu contrariante de chaque côté, ça reste quand même des équipes qui ont enchaîné les victoires ces dernières semaines. Et finalement, on se retrouve avec un affrontement entre deux des 5-6 meilleures équipes sur les 5 dernières semaines. Donc oui, c'est un choc d'AFC Sud, c'est un choc pour la division, c'est un choc tout court.
Un choc tout court. Et en effet, les Texans, on ne les attendait pas forcément aussi bons d'entrée avec un CJ Stroud qui se régale en ce moment. Et forcément, on va mettre un petit peu la lumière sur le lanceur rookie, Stroud, qui s'était régalé lors du premier match, hein, je l'ai dit, victoire 37-17, qui est pour l'instant à 2962 yards, 17 touchdowns, 5 interceptions. C'est vraiment lui qui va être la clé peut-être de ce match. Et j'ai envie de parler de ses interceptions parce qu'il n'avait, on va dire, enregistré qu'une interception, CJ Stroud, depuis quelques semaines. Et là, il en a enchaîné 4 en 2 matchs, dont 3 face aux Cardinals. Est-ce que la clé pour lui, c'est vraiment... Alors, il gagne contre les Cardinals, certes, mais on sait contre les Jaguars, ça peut être différent. Est-ce que la clé pour lui, c'est pas de tenir et de protéger ce ballon impérativement face à Jacksonville?
Oui, évidemment. Après, pour l'instant, on va dire que je teste de l'accident pour Stroud dans le sens où la météo n'était pas forcément favorable. Et en plus, quand même, la marque des grands, c'est que même dans un match où il lance 3 interceptions, ils finissent par gagner le match. Bon, heureusement, c'était les Cardinals en face, etc. Mais oui, la protection du ballon sera indispensable. La protection de Stroud aussi sera indispensable au niveau de la ligne. On sait que cette ligne, elle a eu tellement de blessés au fil de la saison que c'est toujours difficile. Et... moi, j'ai envie de dire que un facteur qui pourrait soulager Stroud et limiter ses prises de risque, etc., ce serait d'avoir un jeu de course qui marche aussi, ce qu'on ne voit pas trop depuis le début de la saison. Donc oui, Stroud doit être plus prudent. Il a parfois la fougue de la jeunesse. Mais d'un autre côté, c'est aussi cette fougue qui a galvanisé cette équipe. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Mais là, j'ai envie de dire, Stroud, il a fait son boulot. C'est autour que ça doit l'aider, enfin que ça doit monter en puissance et l'aider toujours plus cette saison.
Ouais, j'évoquais les pertes de balles parce qu'il va falloir faire attention face aux Jaguars. Hein. On parlait des Broncos tout à l'heure qui étaient à égalité avec les Bills. L'équipe qui provoque le plus de pertes de balles, ce sont les Jaguars avec 20. Donc, il va falloir faire attention. Et tu parlais du jeu au sol. C'est vrai que ça a été un petit peu plus moyen en début de saison. Mais là, ça fait 2 matchs que notamment Devin Singletary, l'ancien joueur de Buffalo, est très bon. Il a 262 yards en 2 matchs simplement. Donc, il aide son quarterback. Il va falloir qu'il aide en effet face à une très bonne défense des Jaguars qui n'encaisse que 87 yards au sol en moyenne. Justement, Jacksonville, j'ai l'impression que Jacksonville, on n'en parle pas beaucoup, presque qu'on est un petit peu déçus. Ils ont commencé la saison à 1 victoire, 2 défaites. Finalement, il y a quand même 7 victoires et 3 défaites uniquement. Les Jaguars, ils sont sur leur cahier de route, ils sont dans la lignée de ce qu'ils pouvaient proposer, non ?
Oui et non. En fait, moi, je comprends la déception parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est qu'il y a 2 fois en prime time où ils se sont retrouvés dans un match au sommet, une fois contre les Chiefs et une fois contre les Niners. Et ces 2 matchs-là, ils se sont plantés. Et c'est ça, à mon avis, qui donne cette impression d'inachevé. C'est que les 2 matchs où on les attendait, les 2 matchs où tout le monde les a regardés, c'est les 2 matchs où ils n'ont pas réussi. Mais par contre, contre une opposition, on va dire, similaire à la leur, et pas intrinsèquement supérieure, oui, dans ces matchs, pour l'instant, ils ont été excellents. Tu l'as dit, c'est une défense qui va encaisser des yards, hein. Ça c'est presque indispensable, mais par contre, c'est une machine à perte de balles, une machine à turnover, à l'image du safety Cisco, qui est, je trouve, un magnifique joueur dont on ne parle pas assez, à l'image évidemment de Josh Allen, de pass rusher, ou même de Devin Lloyd, de linebacker. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du QI football et c'est vrai que c'est ce genre de défense qui plie mais n'auront pas et qui finalement sur pas mal de matchs cette saison a porté cette attaque parce qu'il n'y a pas eu que des belles prestations offensives hein, de la part des Jaguars. Je pense au match face aux Steelers par exemple, même si l'attaque des Steelers, ou face aux Falcons, ils ont vraiment su fermer la porte. Donc non, c'est une équipe qui est en progrès et défensivement, c'est vrai que c'est une équipe, le soir où elle prend feu, elle attrape 3 ballons et elle peut décider du match, oui.
Oui, en effet, petit élément, une dernière chose avant de donner ton prono, les Jaguars qui avaient perdu à domicile face aux Texans, on l'a dit, mais qui à l'extérieur sont impeccables pour l'instant, 4 matchs, 4 victoires pour les Jaguars hors de leur base. Donc on va voir s'ils enchaînent une 5e victoire à Houston. Ça va être en tout cas intéressant de voir ce match, on l'a dit, avec beaucoup d'enjeux. C'est le moment de donner ton pronostic, Victor, Houston ou Jacksonville?
C'est très difficile. C'est très difficile. Je vais quand même rester sur Trevor Lawrence parce que je considère que c'est le quarterback le plus expérimenté des deux et que peut-être le plus à même de gérer ce genre de match à enjeu. Il faudra que Calvin Ridley se réveille. Donc, je vais partir sur les Jaguars, mais honnêtement, c'est tentant, les Texans.
C'est vrai. Et peut-être que je vais dire va te tenter encore plus parce que pour moi, ce sera les Jaguars. En effet, il faut que Calvin Ridley se réveille. Il a dépassé les 100 yards la semaine dernière face aux Titans. 103 yards, un touchdown. Je pense qu'il va être important dans ce match. Il avait été bien muselé lors du premier match. Il avait encaissé, et en tout cas, il avait enregistré que 40 yards. Je pense que Lawrence, Ridley et puis toute cette défense va faire un bon match pour moi dans un match à enjeu, justement pour montrer qu'ils sont capables d'être bons dans les matchs à enjeu. Et pour moi, ça sera Jacksonville. Tu restes sur Houston, histoire de... tu restes sur Jacksonville, pardon, ou tu changes ? Parce que je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais selon mes pronostics, peut-être que ça peut tenter d'autres à prendre l'inverse.
Écoute, pour l'instant, sur ce match-là, je vais rester sur les Jaguars.
Très bien, on va enchaîner justement sur tous les pronos de cette semaine 12.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! We're gonna work on three! One, two, three, work!
Et c'est chaud niveau prono, justement. J'ai fait une petite semaine, hein, on ne va pas se mentir, la semaine dernière, j'ai fait que 8 bons pronostics, je crois. Alain et Grégory ont fait 11, je crois que tu fais 10. Et là, dans ce podcast, vous avez les deux premiers du classement, hein. Je suis à 108 bons pronostics. Et Alain et toi, parce qu'Alain est revenu avec toi aussi, vous êtes à 104, donc il n'y en a que 4 matchs de retard pour vous. Et derrière, c'est Raph et Greg à 102 et Raoul à 98. Et justement, les pronostics de cette semaine, on va en parler. On commence avec les matchs de Thanksgiving. On l'a dit, beaucoup de matchs dès jeudi. Et le premier, ce sont les Lions qui reçoivent les Packers. C'est un match jeudi à 18h30. Un match qui s'est déjà joué. Il y a eu un match aller. Premier match 34-20 pour les Lions. Et on l'a vu, Détroit peut gagner de plusieurs manières, Victor.
Oui, Détroit peut même maintenant se permettre de gagner en étant mauvais, en perdant des ballons. Donc, c'est quand même le symbole d'une grande équipe. Après, attention, hein, les Packers revenus en effet un peu, j'allais dire d'entre les morts, c'est un peu violent, mais revenus sur le bon chemin après la victoire face aux Chargers. Belle opposition malgré tout. Moi, je vais partir sur les Lions qui me semblent vraiment marcher sur l'eau cette saison et qui vont avoir la chance de voir tous leurs concurrents pour le premier seed en NFC s'entretuer ces 4 prochaines semaines. Eux, ils doivent en profiter, donc je vais partir sur eux.
Lions pour moi aussi. Je ne sais pas comment tu veux qu'on la joue. Est-ce que tu veux que je donne mes pronostics avant toi pour que tu puisses t'adapter ou...
Alors, il faut que vous sachiez, depuis l'époque Covid, on a le droit de changer nos pronos le vendredi en cas de blessure. Donc au pire, je m'adapterai, ne t'inquiète pas.
Très bien. On enchaîne toujours avec le match de jeudi, 22h30 cette fois-ci. Cowboys face aux Commanders. Là aussi, duel de division. On retrouve une grosse rivalité. On peut avoir un match serré. On sait que les Commanders, ils font rarement des matchs qui ne sont pas serrés. Mais je pense, pour ma part, que Micah Parsons va se régaler face à une équipe qui encaisse beaucoup, beaucoup de sacs. Je vois les Cowboys, pour ma part.
Alors, moi, j'ai un problème avec Washington. C'est que quand ils affrontent des grandes équipes, ou en tout cas les meilleures équipes de cette année, genre les Eagles et tout, ils sont vraiment très bons. Et jusqu'à la dernière minute, ils sont dans le match. Quand ils affrontent des équipes très moyennes comme les Giants, ils se prennent 2 défaites humiliantes. Donc, je ne sais pas quoi penser de cette équipe, en fait. Je ne sais pas quelle équipe je vais avoir. Je ne sais pas ce que c'est Washington aujourd'hui. Donc, dans le doute, en effet, je vais partir sur Dallas parce qu'ils ont montré qu'ils savaient être forts avec les faibles cette saison. Ils savent capitaliser sur ce type de match. Et bon, ça reste Thanksgiving. On sait que c'est un peu à chasse gardée de Dallas. C'est chez eux. Donc, on va miser sur eux.
Ouais, on va miser sur eux, mais c'est vrai qu'à mon avis, on va avoir un match serré, comme souvent avec les Commanders, qui s'adaptent au niveau de l'adversaire, comme tu l'as bien dit. Le troisième match de Thanksgiving, encore une fois, un duel de division, NFC West, cette fois-ci dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h30 du matin. Les Seahawks qui accueillent les 49ers, San Francisco qui a vu leur safety Tyler Hufanga aller sur la liste des blessés. Deux équipes qui vont se retrouver dans pas longtemps aussi, parce que le match retour se jouera en semaine 14, et toujours des match-ups compliqué à juger, à pronostiquer cette NFC West. On l'a vu déjà la semaine dernière, Victor.
Oui, c'est vrai. Après, San Francisco reste sur 3 victoires d'affilée face aux Seahawks. San Francisco a semblé retrouver la marche en avant depuis la bye. À l'inverse, les Seahawks se sont pris les pieds dans le tapis contre les Rams. Moi, je vais plutôt miser sur le rouleau compresseur des Niners. Mais pour les Seahawks, ça va être vraiment difficile parce que Eux, pour le coup, ils vont affronter Dallas, Philadelphie et San Francisco deux fois, tu l'as dit, de tout en quatre semaines. Donc attention à ne pas perdre de fil parce que les playoffs pourraient s'éloigner si jamais ils font un 0-4. Mais bon, je vais partir sur les Niners. En plus, ça me permettra de ne pas perdre deux points contre les autres.
Oui, en effet, pour le coup, les Seahawks, ils ne sont qu'à un match de leur adversaire du soir, puisque 6 victoires, 4 défaites pour Seattle. San Francisco, c'est 7 victoires, 3 défaites. On le sait que les Seahawks peuvent repasser devant en cas de victoire, mais c'est vrai que ça me semble compliqué, pour moi. Ce sera San Francisco aussi. Dernier match entre jeudi et vendredi, c'est le match du Black Friday. Les Jets qui accueillent les Dolphins. Et pour le coup, ce sera un match à vendredi à 21h. Et pour le coup, pour Zach Wilson, il a la chance, ça ne sera pas un vendredi noir pour lui parce qu'il sera sur le banc. Zach Wilson, on s'est enfin décidé du côté de New York à mettre le lanceur sur le banc. Est-ce que ça sera suffisant pour battre Miami? Je ne suis pas sûr.
Il ne sera même pas sur le banc, parce qu'il est quarterback numéro 3 maintenant. Donc, il sera sûrement sur la liste des inactifs. En plus, humiliation suprême.
Dans les tribunes.
Ouais, il sera dans les tribunes. Les Dolphins m'ont beaucoup déçu face à Las Vegas. En plus, j'ai été obligé de les regarder de A à Z. Ça perd trop de ballons. Et du coup, tu vois, c'est le genre de match où, attention, parce que la défense des Jets, on l'a vu, elle est extrêmement bonne. Et c'est quand même une défense, lorsqu'elle a créé des surprises contre les Bills, contre les Eagles ou autre, c'est parce qu'elle a provoqué 3-4 pertes de balles. Donc attention quand même, malgré tout. Bon, confiance modérée dans l'attaque des Jets. Donc on va partir sur les Dolphins, ça encore, pas envie de perdre un point sur un match qui est censé être à sens unique.
Oui, Miami pour moi aussi, parce qu'en effet, les Dolphins, on est encore peut-être sceptique un petit peu sur leur capacité à être très bons dans les très grands moments. On les a vus perdre face à de grandes équipes comme les Eagles ou les Chiefs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont joué une équipe qu'ils étaient censés dominer, ils l'ont globalement fait. Et je pense que ça sera toujours le cas, en plus en prime time français, parce que ça ne sera pas vraiment le prime time américain, mais en tout cas, un match décalé comme ça où beaucoup de monde pourra le regarder. Je pense que Miami va s'imposer. On revient un petit peu à du plus classique, dimanche 19h, avec toujours un match de division. Il y a pas mal de matchs de division. Et celui-là aussi, il va être important parce qu'il n'y a qu'un match qui sépare les Falcons et les Saints. Atlanta qui va accueillir New Orleans. Est-ce que c'est la dernière chance pour les Falcons? Parce que le match retour sera en semaine 18. Ils sont qu'à un match. Ils les battent, ils peuvent repasser devant dans cette division. Atlanta, dernière chance?
Oui, Atlanta, dernière chance, mais je sais pas, je pense au même où t'en as un qui tape un autre et ils disent arrêtez, il est déjà mort. Bah moi c'est un peu ce que j'imagine pour les Falcons. Je vois plus, j'ai l'impression d'un groupe qui a un peu lâché le coach, un peu lâché la saison. Et d'autre côté, on voit des Saints qui malgré tout sont pas extrêmement bien coachés. Mais se battent comme ils peuvent, certes, mais se battent. Donc, je vais quand même y aller sur l'équipe la plus vaillante des deux. Je vais aller sur les Saints.
Il va falloir quand même qu'on discute sur les mèmes que tu connais et que tu utilises, parce que celui-là, arrêtez, il est déjà mort. T'es sûr que c'était un mème ou un film ou une vidéo? Parce que là, je l'ai pas. On en parlera peut-être en rantaine. Je te vois déjà taper sur ton ordi. Je sens que tu vas me l'envoyer.
Ouais. C'est Simpson, apparemment.
Les Simpsons, très bien. Les Simpsons, eh ben, c'est moi qui. Je n'avais pas la ref. Autant pour moi. Je vais rester sur les Saints aussi, on reste tous les deux sur New Orleans, j'ai l'impression. Dimanche 19h aussi, Bengals-Steelers, Cincinnati, c'est un petit peu le premier match du reste de leur vie avec l'absence de Joe Burrow jeudi dernier, tout comme pour les Steelers un petit peu, parce que Matt Canada a été viré il y a quelques jours. Désormais, on va voir ce que donne l'attaque des Bengals sans Joe Burrow et on va voir ce que donne l'attaque des Steelers sans Matt Canada.
Écoute, moi j'ai une théorie quand il y a des trucs comme ça. C'est en général le premier match, l'attaque des Steelers va flamber et on va se dire « Oh, vous avez vu, c'était Canada le problème, etc. » Et au bout de deux semaines, on va se rendre compte que c'est Pickett qui est nul. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je vais miser sur le réveil momentané des Steelers sur une semaine, tu vois.
Ouais, et je pense comme toi, alors peut-être pas sur l'explosion offensive, mais je pense que Pittsburgh est capable tout de même, on le sait, avec cette défense, ils sont dans tous les matchs quasiment, ils sont passés pas loin de battre, ou en tout cas d'accrocher des Browns, alors qu'ils n'avaient quasiment rien pour eux, notamment offensivement. Donc moi aussi, je pense que ce sera Pittsburgh avec un petit peu de nouveauté, peut-être un petit peu de vent de fraîcheur en attaque, et un tout petit peu plus que des Bengals qui sont privés de Joe Burrow. Ça fait mal à la tête aussi mentalement hein, de savoir que le quarterback star et le franchise quarterback est blessé pour toute la saison. Alors, ils ont eu un peu plus de temps que d'habitude parce qu'ils ont joué jeudi. Mais je pense qu'ils ne s'en remettront pas tout de suite, en tout cas. Et je vois Pittsburgh aussi. Dans la foulée, Texans, Jaguars, on l'a dit. Hein, Jacksonville, pour tous les deux. On va parler pour l'instant du seul match qui n'est pas un match de division. Les Colts face aux Buccaneers. Tampa Bay qui se déplace à Indianapolis. 5-5 pour Indianapolis, 4-6 pour Tampa Bay. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match. C'est vrai que ce n'est pas le match le plus excitant de la semaine tout de même.
Écoute, cette équipe de Tampa Bay, mine de rien, elle jouait playoff hein, parce qu'elle n'est jamais qu'un match des Saints. Elle joue avec ses forces. Lorsqu'elle est débordée par des équipes qui ont un trop bel effectif, bah, forcément, ils perdent. Mais mine de rien, les matchs accrochés, ils sont là. La défense a quand même un nombre de vétérans hors du commun. L'attaque produit lorsque l'opposition n'est pas non plus incroyable. Je pars sur les Bucks parce qu'ils ont quelque chose à jouer là où les Colts sont un peu plus dans le creux de la vague. Et parce que, encore une fois, dans ce genre de match, j'ai tendance à faire confiance aux vétérans pour aller arracher la victoire.
Oui, Bucks pour moi aussi, pour les raisons que tu as évoquées. Et en effet, Buccaneers qui peuvent profiter de ce duel entre les Falcons et les Saints. Il y aura forcément un perdant dans ce match-là. Donc, je vois Tampa Bay essayer d'en profiter. Dans la foulée, New York Giants qui reçoivent les New England Patriots. 3-8 pour les Giants, 2-8 pour les Patriots. Et ce match-là, c'est un match de fond de classement. Tu parlais d'équipes qui jouaient encore les playoffs. Pour le coup, ni l'une ni l'autre ne jouent encore les playoffs. Ils jouent peut-être même le tanking. En tout cas, il y a deux équipes qui vont se battre pour avoir un quarterback dans le futur, peut-être.
Le tanking n'existe pas. En tout cas, pas au niveau des joueurs. Pour la simple et bonne raison que les contrats ne sont pas garantis, contrairement à la NBA. Mais au niveau des coachs et des propriétaires, ça peut arriver. Écoute, les Giants, ils ont quand même montré des signes de vie face à Washington. Tommy DeVito, qu'on a rapidement enterré après une mauvaise performance, bah, globalement, il a été plutôt bon. La défense... c'est bien réveillé après l'humiliation de Dallas. Là encore, ils ont quand même des joueurs qui font une bonne saison, comme McFadden, comme Okereke, comme ce genre de joueurs. Donc, je vais aller sur les Giants, parce que c'est vrai qu'ils ont cette tendance à prendre des gros plays, mais comme les Patriots n'en font pas, de toute façon, je suis moins inquiet.
Oui, ça devrait aller là pour les gros plays Patriots. À l'heure où on vous parle, Bill Belichick n'a toujours pas voulu donner le nom du quarterback titulaire pour ce match. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Pour moi, je vais aller vers New England. Ils sortent de la bye week. Ils ont pu préparer ce match. Ça va jouer très défensif. Mac Jones ne sera peut-être pas là. Mais je vais la tenter. Ça va peut-être me faire perdre un point. Mais ce match, il est serré.
Tu es trop fidèle.
D'habitude, je mise contre eux. Mais mais à chaque fois que je l'ai fait cette année, ça a couru à ma perte. Hein, donc, on se retrouve lundi pour en parler. On verra. Autre match du bas de tableau avec les Titans et les Panthers. Là, on a envie de voir Bryce Young progresser. Il va en avoir l'occasion, peut-être, face à l'une des plus mauvaises défenses aériennes de la Ligue, les Titans.
Oui, les Titans, bah là encore, tu vois, c'est un peu comme on parlait du syndrome Canada. Là. C'est un peu, Will Levis, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que sur un match, il a flambé, ils ont gagné, tout le monde était dithyrambique, etc. Et puis finalement, les limites de l'effectif ont rapidement rattrapé cette équipe. Et c'est vrai que, les Panthers en face, c'est difficile. Faut quand même rappeler que les Panthers, contrairement à d'autres, ils n'ont aucune raison de tanker vu qu'ils n'ont plus leur pick.
Et ça leur ferait... le tanking n'existe pas de toute façon.
Oui, mais ça leur ferait encore plus de mal, je pense, de finir premier et devoir le donner. Mais en tout cas, ça va être un match entre deux équipes qui cherchent juste des réponses, des pistes pour savoir ce qui peut marcher l'année prochaine. Là encore, je vais partir sur l'équipe qui a les meilleures individualités. Je vais partir sur les Titans. Mais je ne tombe pas de ma chaise si les Panthers se prennent. Tu vois.
Eh bien, justement, moi, je vais tenter Carolina avec les Panthers, un Bryce Young qui peut éventuellement montrer des progrès. Je vais la tenter. Ça, c'est un match de 19h. On passait sur la session des matchs de 22h05. Cardinals face aux Rams, NFC West. De nouveau, deux équipes qui se sont déjà jouées en semaine 6. Les Rams l'avaient emporté 26-9, mais à ce moment-là, Kyler Murray n'était pas là. Est-ce que ça change quelque chose dimanche ?
Oui, ça équilibre le débat, ça c'est sûr. Bon, après, Kyler Murray, il faut y aller 7 ans. Ça fait un an qu'il n'a pas joué. Il avait quitté une Rolls-Royce, on lui a redonné une 206. Donc, il faut qu'il apprenne à la conduire. Il était en automatique, maintenant, il est en manuel. Tu vois, c'est difficile de s'y remettre.
Il peut caler, ouais.
Il peut caler, mais pour le coup, non, c'est beaucoup plus équilibré que ça pouvait l'être. J'ai envie de dire que le principal avantage des Rams, c'est le cornerback des Cardinals, Marco Wilson, qui, je ne sais pas pourquoi, il s'obstine à le titulariser, alors que dans toutes les métriques, il est de très loin le pire cornerback que cette ligue puisse produire. Et en face de lui, il y a Cooper Kupp et Puka Nacua, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que je vais partir sur les Rams, c'est que je pense qu'il y a pas assez de matos du côté des Cardinals pour freiner cette attaque aérienne de Los Angeles. Mais ça va être un match couperet.
Eh bien, moi, ça sera Arizona, en effet, parce que Kyler Murray est de retour. Ça fait deux matchs qu'il est revenu. Il y a eu une victoire, il y a eu un match plutôt serré face à Houston, alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Et en effet, dans ces matchs de division d'NFC West, je pense que la logique est que très rarement respectée. On l'a vu la semaine passée entre les Seahawks et les Rams. Donc là, je vais inverser, je vais tenter les Cardinals. On tente un coup, il faut prendre des risques.
Non, mais Broncos, celui-là, ça ne me choque pas.
Ouais. Broncos, Browns, dimanche 22h. Aussi, on a beaucoup parlé des Broncos. Denver qui va affronter la meilleure défense de la Ligue, on peut le dire. C'est un challenge qui est assez relevé pour Denver. Est-ce qu'ils sont capables de passer outre cette énorme escouade défensive?
Oui.
Eh bien, on va passer au révélation.
Ça va être le match de la révélation. Non, et puis je pense quand même que l'attaque des Browns, mine de rien, est limitée. Dorian Thompson-Robinson, j'ai que d'amour, UCLA, tout ça, mais on sent que pour l'instant, c'est un petit peu plus difficile. Pour la première fois, il va avoir, l'occasion de... Il y aura une semaine entière pour se préparer. Mais c'est vrai que sans Bradley Chubb non plus, je trouve que même si la défense est incroyable, l'attaque reste limitée. Et en face, on l'a dit et redit, les Broncos sont en pleine confiance. Russell Wilson, ça va pas lui faire peur d'aller prendre des risques contre cette attaque qui peut être contre cette défense qui peut être intimidant pour beaucoup. Donc je vais être cohérent avec mon optimisme playoff du début et je vais mettre les Broncos.
Je vais l'être aussi, je vais mettre les Broncos en effet. Dorian Thompson-Robinson, ça va lui changer de découvrir la Ligue, ce que c'est la Ligue en dehors de la FC Nord. Hein. Lui qui a joué face aux Ravens et aux Steelers.
Ça, c'est sûr.
Ça va être un petit peu mieux pour lui, mais en effet, je le trouve limité. En tout cas, je trouve cette attaque dans son ensemble un petit peu limitée. Et en effet, il va falloir rester cohérent pour Denver, qui à mon avis, va peut-être remporter sa 5e victoire consécutive. Denver, pour moi, toujours le dimanche à 22h, Raiders-Chiefs, là, un duel d'AFC West. Les Chiefs qui sont dans l'obligation de rebondir, ça fait deux défaites en trois matchs. Généralement, face à un adversaire de division, c'est le cas pour Patrick Mahomes et Andy Reid. Ils font souvent le boulot.
Oui, et puis on voit des Raiders, l'euphorie du changement d'entraîneur a commencé déjà à montrer des petites faiblesses lors du dernier match face à Miami. Offensivement, c'était nul. Ils sont retombés dans beaucoup de travers. Ils ont manqué de panache et de confiance dans Aidan O'Connell. Quand même si, alors c'est tout débat de la semaine, les Chiefs n'ont pas de receveur, etc., blablabla, ils ont quand même Andy Reid, Travis Kelce, Patrick Mahomes. Il y a un moment, ils doivent s'en sortir. Si vraiment ils perdent contre les Raiders, là on peut parler de crise de novembre. Je ne sais plus c'est quel club, c'est le PSG qui est spécialiste de la crise de novembre.
Non, le PSG sont spécialistes de la crise de février généralement, quand la Ligue des Champions arrive. Mais ça, c'est un
autre. Je ne sais plus quelle équipe c'est. Mais... Enfin bon, voilà. Donc, les Chiefs, s'ils veulent éviter la crise de novembre, là, il faut quand même qu'ils battent les Raiders.
Je t'aurais bien parlé de Marseille pour la crise de novembre, mais le problème à Marseille, c'est qu'il y a une crise en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en février. Bon,
Une crise tous les mois, ça ne marche pas.
Exactement. Bon, ça sera pour moi les Chiefs aussi, parce qu'en effet, à mon avis, ils vont s'occuper de Las Vegas pour essayer de repartir de l'avant. Eagles, Bills, là aussi, c'est un gros match pour les deux. La seule défaite des Eagles, tu en as parlé tout à l'heure, c'était face aux Jets. Et à ce moment-là, c'était un match qui avait été un peu rendu sale par les Jets avec trois interceptions sur Jalen Hurts. On le sait, les Bills, je l'ai dit, ils sont capables de provoquer des pertes de balles, 19 depuis le début de la saison. Est-ce qu'ils sont capables de le faire à Philadelphia?
Ils sont capables, mais ils sont capables d'en donner aussi beaucoup. C'est un peu ça le problème, si tu veux. On a presque l'impression que c'est l'équipe qui perdra le moins de ballons qui va gagner ce match. Je caricature à peine. Josh Allen, cette saison, c'est quand même le Père Noël. Hein. Et il a un mois d'avance. Mais disons que dans ce genre de match, oui, ça va être vraiment les fondamentaux. C'est-à-dire, qui va réussir à contrôler l'horloge avec le jeu de course? Parce qu'on l'a vu, le jeu de course est intermittent pour ces deux équipes. Qui perdra le moins de ballons? Qui sera le meilleur en équipe spéciale? Ça va vraiment être ce genre de match qui se joue sur des détails. Et dans ces moments-là, en général, je pars sur l'équipe à domicile. Du coup, je vais partir sur les Eagles.
Oui, et puis l'équipe qui a le plus de confiance collective aussi, hein, parce que Philadelphia, j'ai parlé de la seule défaite, mais il y a quand même en 10 matchs 9 victoires, la confiance de pouvoir gagner de plusieurs manières et dans plusieurs situations, à l'inverse des Bills qui sont en train un petit peu de voir cette confiance s'effriter. Donc ça sera Philadelphia pour moi. Le Sunday Night Football, ce sont les Chargers qui accueillent les Ravens. Est-ce que c'est le dernier match de Brandon Staley?
Ouais, bah j'espère pour les j'espère pour tous les fans des Chargers, j'espère pour Raoul, j'espère pour les fans de foot. Non, c'est là vraiment, enfin, je suis désolé, je pars toujours dans des poncifs et des caricatures, mais on est aussi dans ce genre d'équipe enfin où quand c'est pas les joueurs qui sont démotivés, c'est juste les joueurs qui manquent de talent. Je suis désolé, mais les ballons relâchés contre les Packers, c'est honteux. Moi, je suis Justin Herbert, je rentre chez moi, je casse un mur. Enfin, c'est pas possible de jouer avec des tanches pareilles. Même et quand tu vois des joueurs qui sont excellents depuis des années, comme Keenan Allen, même lui, tu as l'impression qu'il a perdu son focus, tu te dis, c'est vraiment qu'il y a un problème global. Donc là-dessus, je pars... Je mise sur une victoire des Ravens, une implosion des Chargers, destitution de Staley et arrivée de Kellen Moore en intérim.
Ouais. Alors pour leur défense, je crois que, mais on ne va pas refaire le match de la semaine dernière, mais le soleil gênait beaucoup les receveurs, apparemment. C'est ce qui a été dit, mais c'est vrai que bon, c'est un mal qui est un petit peu depuis le début de la saison, donc le soleil n'était pas là toutes les semaines. En effet, c'est un match du dimanche soir qui sera en prime time aux États-Unis, donc peut-être que le lundi matin pour Brandon Staley sera compliqué, on verra. En tout cas, je mise les Ravens aussi. Et pour terminer, on va aller du côté de Minnesota, on va terminer avec encore une fois un duel de division NFC Nord, les Vikings qui accueillent les Bears, les Vikings qui vont devoir une réaction à leurs supporters avec en face un Justin Fields qui a été très bon la semaine dernière.
Oui, Justin Fields qui est de retour. Très compliqué en fait ce match parce que c'est quand même très tentant de jouer les Bears, je trouve. Parce que forcément, les Vikings sont devant, ils ont mine de rien des fondamentaux, ils ont un Danny Hunter qui marche sur l'eau. Mais les Bears, ils vont nous faire comme la saison dernière, en fait. Ils vont nous faire 2-3 bons matchs en fin de saison pour nous faire espérer et redevenir nuls dès septembre. Mais allez, je vais jouer le panache. Je vais jouer les Bears.
Ça peut t'aider, je joue Minnesota, moi, ce qui est normal. Donc c'est bon, on termine sur un désaccord. C'est pronostic Minnesota pour moi, Chicago pour toi. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, nous, on va passer aux cotes de la semaine. Et les codes de la semaine présentés notamment par notre partenaire Unibet, on va en parler. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, Victor? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? On parlait de ce match-là, alors c'est le match du lundi soir, mais ce match entre les Vikings et les Bears, toi qui as parlé des Bears, est-ce que la cote des Bears, elle t'intéresse? Dis-nous tout.
Je trouve que 2,17, c'est pas cher payé. Et ça montre peut-être aussi que je ne suis pas le seul à y croire, entre guillemets. Il y a d'autres cotes que je trouve plus intéressantes. Alors, sur les trois premières, on est prudent, donc je ne vais pas tout de suite balancer des gros trucs. Mais quand je vois, par exemple, Cardinals-Rams, on est à 1,76-1,76. Bengals-Steelers, on est à 1,80-1,73. Falcons-Saints, on est à 1,75-1,78. Je me dis, à un moment, sur ces matchs-là où on a tous les deux mis le même, peut-être qu'on peut y aller et essayer de prendre des cotes là-dessus, par exemple sur les Saints ou sur les Steelers.
C'est ce que je m'étais noté, en effet. Je m'étais noté les Cardinals à 1,76. En effet, on peut le mettre. Tu m'as parlé...
Ah non, à 1,76, moi, je mise les Rams, du coup.
Ah, tu mises les Rams. Tu mises les Rams. Parce que
bon, ça revient même, de toute façon, c'est la même cote.
Vas-y. Allez, on met les Rams, du coup. On met les Rams, on te fait confiance. Comme ça, si les gens perdent, on dira que c'est à cause de toi.
Exactement.
Tu m'as parlé de quelle autre équipe? Tu m'as parlé
des Saints. J'ai dit Saints, Rams et Steelers,
les Saints qui jouent face aux Falcons. Saints, Rams et Steelers. Les Steelers qui se déplacent du côté de Cincinnati. On est donc Saints 1,78, Steelers 1,73, Rams 1,76, ce qui nous fait une cote de 5,42. Pour 5 euros misés, on est sur 27 euros de gagné. En effet, en tout cas, c'est des matchs. Moi, c'est toujours ce que je dis. Quand les cotes sont si proches que cela, c'est du 50-50. Reste à trouver le bon côté de la pièce. Donc, c'est des matchs qui se jouent, en tout cas. Est-ce qu'il y a du YOLO, comme on dit, qui t'intéresse ? Parce que, alors on le dit, on évite les matchs du jeudi et du vendredi, parce que peut-être que quand vous écouterez ce podcast, les matchs seront en cours ou certains seront finis. Moi, je parlais des Patriots tout à l'heure. J'ai misé les Patriots. Toi, tu as donné les Giants, mais les Giants à 2-14, ça se joue même sur un YOLO.
Les Patriots sont favoris. Ah oui, tiens.
Et de loin, 1,50 pour les Patriots.
Incroyable. Bah oui, du coup, tu joues la cote, hein. Tu joues les Giants, non, je suis d'accord avec ça. Ouais, Giants, t'es obligé.
Giants de 14, j'ai misé sur les Panthers, moi, tout
bah
à
oui.
l'heure.
Bah oui, t'as dit les Panthers, faut qu'on le mette. Hein.
2,43, les Panthers.
C'est notre totem, moi, bah oui, oui, c'est sûr.
C'est quelque chose qui se joue. Et une dernière, je ne sais pas s'il y en a une qui t'intéresse.
Bah, moi, les Bears, du coup, comme je suis allé sur les Bears.
Les Bears, très bien, 2,17. 2,17, il n'y a pas de cote énorme. Hein. Les cotes énormes, elles sont surtout jeudi avec des 3, des Commanders qui sont à 4,25. Mais encore une fois, on ne va pas jouer cela. J'ai ajouté donc les Giants à 2,14, les Panthers à 2,43 et les Bears à 2,17, ce qui nous fait une cote totale de 61 pour 5 euros misés. On est à 328,34 €. On a fait mieux, mais c'est aussi un YOLO qui n'est pas si YOLO que ça et qui peut passer.
Comment tu arrives à 328 en faisant 5 fois 61 ?
Parce qu'il y a un bonus multimax freebet 7,5%.
Ah,
voilà,
d'accord.
Pour être tout à fait honnête avec
autant pour moi. Alors, c'est ma méconnaissance des. C'est ma méconnaissance des paris, je pense.
Tu as senti mon doute, hein, parce que les gens ne me voient pas, mais à l'image, il y avait une petite réaction de surprise, mais j'ai dû reprendre la page. Et en effet, quand on accumule les sélections, on a un bonus multimax freebet 7,5% qui
d'accord,
nous ajoute
okay.
22,55 €. Et voilà, 5 fois 61,16 plus 22,55. Je sais que je suis en présence d'un comptable, donc les choses bien. 328,34 €. Donc on est bon, le compte est bon. Tu valides mes comptes,
je valide.
Allez, très bien. Eh bien, écoute, on finit sur ça. En tout cas, voilà, n'oubliez pas, jouer raisonnablement, ça doit rester un jeu. Et surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire aider. Et c'est ainsi qu'on va terminer, nous, cette présentation de la semaine 12. C'était riche, c'était intense. On va avoir beaucoup de football avec ce Thanksgiving qui approche. C'est toujours un moment sympa dans l'année, Thanksgiving. On va kiffer, j'espère. Tu vas kiffer, Victor ?
Ah bah oui, moi j'adore, j'adore pour le coup les matchs jeudi. Après match vendredi, bon, j'ai peur que ça soit un appel d'air pour autre chose, mais on aura cette discussion plus tard. Mais surtout le jeudi, oui, c'est quand même Dallas-Détroit, c'est quand même la tradition tous les ans. C'est plutôt pas mal. Et en plus, pour quelqu'un qui travaille avec les États-Unis, je vais te dire, au niveau professionnel, tu es tranquille pendant 48 heures.
Oui, je te confirme.
C'est quand même le grand plaisir que tu peux avoir aussi.
Oui, le pays qui tourne un petit peu au ralenti à ce moment de l'année, je le confirme aussi pour y avoir vécu. C'est vrai que c'est un moment particulier et c'est un moment qu'on apprécie. Nous, en effet, vous avez encore dans la semaine le podcast Draft, si je ne me trompe pas, le podcast Fantasy, le fauteuil qui va être important aussi parce qu'il y aura 4 matchs à débriefer cette semaine. Je crois que c'est Raoul, si je ne me trompe pas, qui sera avec vous. Voilà, plein de choses jusqu'à dimanche. Et dimanche, il y aura, je ne l'ai pas cité, mais il y aura le match aussi sur Sisplay, c'est Bengals-Steelers. Je crois que je serai avec Grégory. Voilà, on espère que vous jetterez un petit œil. Nous, on va se quitter sur ça. Merci beaucoup. Merci, Victor. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.